patrimoine. Une émission présentée par Evelyne Padrino. Faites un voyage dans le temps, au cœur des anciennes civilisations. Et oui, oui, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Culture et Patrimoine d'Evelyne Padrino. Alors aujourd'hui, on va faire une émission un peu particulière parce qu'on est beaucoup sur le plateau, on est nombreux. D'habitude, on a Evelyne en direct qui nous raconte des histoires des anciens. Et aujourd'hui, on va raconter l'histoire des Templiers et on a des gens de marque avec nous, qui sont avec nous. On a 4 personnes sur le plateau, dont 2 qui vont participer à l'émission. Il s'agit de l'association de la commanderie des Templiers de Géraud de Causse, qui sont parmi nous. Et on va faire une belle émission avec eux. Alors, sur le plateau, on a Jean-Luc Alias. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
On a Wilfried Joule, qui est avec nous. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Et on a sur le plateau, qui ne participeront pas à l'émission, mais qui sont sur le plateau et qui font partie de la commanderie, Dominique Ray et Karine Javed. Alors, j'aurais envie de dire... Qu'est-ce que c'est que cette association et quand est-ce que vous l'avez créée? Alors, je poserai la question à Wilfried. Quand est-ce que vous avez créé cette association et comment vous est venue l'idée de créer cette association de la des Templiers
de la commanderie Géraud de Causse, voilà. Qui est basée à Gourdon dans le département du Lot. Cette réflexion sur cette création d'une commanderie dans le département du Lot, d'une part qui est un département très entité templière, hein, à travers le Bastille, il y a Rocamadour, il y a Figeac, il y a Crasse, beaucoup d'anciennes commanderies templières au sein du département. Ensuite aussi, quand l'ordre a été dissous, c'est passé aux hospitaliers à Cahors. Et donc, cette réflexion templière qui est ancrée en moi depuis plus de 30 ans, à travers un ou deux amis qui étaient templiers, m'ont dit « Oui, il faudrait essayer de structurer une association, une commanderie de l'ordre des templiers dans le Lot. » Et puis, c'est avéré comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai eu l'opportunité de pouvoir rencontrer M. Jean-Luc Alias, l'historien, écrivain, essayiste, plus de 30 ans d'études sur les templiers. À travers un livre qu'il avait écrit donc sur les Templiers dans le Lot, et on s'était retrouvé, une anecdote assez surprenante mais authentique, on s'est retrouvé à la station-service d'Intermarché à Gourdon pour que je puisse lui acheter son livre, et puis nous avons échangé, et de là, on va dire que est née vraiment l'histoire de la commanderie Géraud de Causse, puisque c'est Jean-Luc, à travers toutes ses études sur le département du Lot, qui m'a préconisé de baptiser cette commanderie Géraud de Causse. Pourquoi ? Parce que c'était le dernier commandeur de la plus grande commanderie du Lot, le Bastille, qui se situe entre Gourdon et Gramat, géographiquement. Et donc voilà, donc d'où est partie la création de la commanderie Géraud de Causse. À ce jour, on est plus de 1600 adhérents à l'association. C'est une commanderie qui est en pleine résurgence, et notamment le côté, le côté féminin, parce qu'aujourd'hui, parler de résurgence féminine dans l'esprit templier, c'est reconnaître que les valeurs portées par cet héritage, foi, courage, engagement, loyauté, transmission, ne sont pas, l'apparrainage d'un genre. Elles sont universelles. Et dans notre époque moderne, de nombreuses femmes s'investissent dans la préservation du patrimoine, dans la recherche historique, dans la transmission culturelle et surtout une spiritualité liée aux Templiers. Elle redonne voix et sens à une mémoire longtemps raccordée au masculin, hein, parce que il y a encore beaucoup de commanderies de nos jours qui sont dans un cercle très fermé, je pourrais même dire macho, est ce que je déplore. Et cette résurgence féminine, ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est l'éclairer autrement, à travers leur lecture d'âme, pardon. Leur façon de voir une vie différente que nous, c'est reconnaître que derrière chaque pierre, de la commanderie Géraud de Causse, derrière chaque acte de donation, derrière chaque terre cultivée, il y avait aussi des femmes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la commanderie Géraud de Causse, suite à cette résurgence féminine, il faut le noter, hein, c'est très très important de nos jours, mais un grand hommage aujourd'hui à cette dimension. Elles affirment que l'héritage templier appartient à toutes et à tous. C'est faire vivre une mémoire plus inclusive, plus équilibrée et profondément humaine. Et je dirais en anecdote que cette reconnaissance soit un pont entre le passé et le présent. Voilà, de nos jours, en 2026, il faut savoir faire la part des choses et savoir sauter, donner cet élan qui permet à toutes ces personnes, parce que de nos jours, en 2026, avec tous les appels que je reçois au quotidien, hein, sur 2 ans, j'ai côtoyé plus de 600 personnes à peu près. Et de nos jours, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que les 3/4 des personnes sont en perdition au niveau de leur identité. Elles manquent de repères, elles perdent de repères et n'ont plus confiance à des institutions nobles, et je le déplore, mais bon, c'est ainsi. C'est la vie de 2026, hein. On s'adapte à ce qui s'y passe. Et donc les gens, à travers la commanderie Géraud de Causse, retrouvent ce côté fraternel, cette fraternité qui n'est pas dans le jugement, qui est dans le service désintéressé, qui est dans l'aide à la personne, qui est dans la sauvegarde des patrimoines, les églises, les chapelles, etc., puisque la commanderie Géraud de Causse a été partenaire de plusieurs associations sauvegarde du patrimoine dans le département du Lot. Et donc, à travers toutes ces actions, chaque frère et sœur ou chaque personne adhérente au sein de la commanderie trouve leur place et, entre guillemets, apporte leur pierre à l'édifice à travers X facteurs et ce que je peux qu'encourager. Voilà. Et donc, à ce jour, la commanderie Géraud de Causse est structurée d'une 60aine de personnes au niveau organigramme, hein. Donc, bien sûr, en tant qu'association 1901, un trésorier, une secrétaire et un président. Puis après, sur l'organigramme templier, ça part de l'archiviste au graphiste, au commandeur. Il y a 3 lieutenants, il y a des frères sergents, il y a des écuyers et puis il y a des sorores, les sœurs, qui sont très, très nombreuses au sein de la commanderie. Et d'autres arrivent qui vont pouvoir amener leur propre âme pour faire avancer, évoluer cette commanderie. Et je dirais que la force et la sagesse et la lumière portée, donc je reviens sur ce contexte des femmes, continuent d'enrichir cet héritage vivant.
Oui, absolument. En tout cas, nous sommes ravis et honorés de les recevoir parmi nous et de voir également que vous avez su concilier les valeurs chevaleresques avec la modernité d'aujourd'hui. Vous avez su faire évoluer cet ordre tel qu'il l'aurait pu, peut-être, pourquoi pas, évoluer de nos jours. Et c'est fabuleux. En tout cas, bonjour à tous les amis auditeurs. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver en direct aujourd'hui avec nos invités demain. Donc, superbe émission. Alors, je voulais rebondir également sur la maison du Bastide Causse dans le Lot, dont vous venez de nous présenter. Je vais dire quelques mots, puis après, Jean-Luc Alias, qui est historien, pourra rebondir et puis nous expliquer plus amplement sa région et puis tout ce qu'il a à nous partager. Donc, eh bien, cette maison du Bastide fut un don en 1450 par le baron de Castelnau, apparemment, et le baron de Gourdon aux Templiers. La première commanderie du Haut-Quercy qui fut fondée, sa situation, bien sûr, sur un point stratégique sur des voies de commerce, et aussi, ce qui est évident, c'est qu'en même temps, elle se situait très près de la frontière du duché d'Aquitaine, donc de chez nous, et du comté de Toulouse, et ce qui en fit également un haut lieu d'implantation de l'ordre sur cette terre d'Occitanie. Ce Bastide, donc dans Bastide, on a quoi ? On a bâtisse, ce qui nous ramène aussi à Maisonforte, donc qui dépendait aussi de 3 autres commanderies, dont justement Wilfried vous a présenté, celle de Crasse, de la Pomarède et d'Acier. Voilà, il faut savoir que le chevalier Géraud de Cosse, il fut commandeur en 1305, avant son arrestation en 1307 par Philippe le Bel. Ça, Jean-Luc Alias va nous en parler. Il y a aussi des commanderies et des prieurés sur le chemin du pèlerinage qui va vers Rocamadour, puisque dans leur région, tout près se trouve à quelques quarantaine de minutes à peu près. Voilà, oui. De Rocamadour. Donc, bien sûr, sur ce chemin de pèlerinage particulier, qui rejoint aussi notre région, puisque Saint-Amadour était l'époux de Sainte Véronique, dont nous avons ici, à l'église Saint-Seurin de Bordeaux, son tombeau, cénotaphe, ici. Donc, vous voyez que nous sommes très reliés entre régions et que l'histoire est magnifique autour de tous ces lieux sacrés, exceptionnel. Il faut savoir aussi que Saint-Amadour devint ermite sur le site donc de Rocamadour et qu'il termina ses jours, il fut ermite jusqu'à la fin de ses jours en fait. Voilà, plus tard un sanctuaire y fut dédié et bien sûr une Vierge noire y est encore visible et on dit qu'elle serait favorable à de nombreux miracles qui se sont produits, et mais aussi beaucoup de pèlerinages, beaucoup de gens qui bougent, qui se rassemblent et qui viennent visiter ce lieu hautement sacré, hautement magnifique et historique et religieux. Voilà, maintenant je vous laisse avec Jean-Luc Alias.
Alors Jean-Luc, j'aurais une question à te poser, puisque tu es l'historien, je dirais, qui a écrit de nombreux ouvrages sur les Templiers. Combien d'ouvrages tu as écrit ?
Une douzaine.
Une douzaine à peu près. Mmh. Et c'est toute l'histoire des Templiers que tu racontes, ou des passages de l'histoire des Templiers ?
Ça se situe entre l'histoire et le passage.
D'accord.
Puisque j'ai travaillé de façon locale, régionale. Hein, mettons les Templiers en Vendée, les Templiers dans le Lot, les Templiers en Bretagne qui va bientôt sortir, les Templiers à La Rochelle prochainement. Donc voilà, je cible de façon régionale.
D'accord.
Régionale, locale. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'histoire des Templiers, il faudrait 10 heures d'émission pour parler de l'histoire des Templiers. Mais que, en principe, il y a tellement d'ouvrages qui sont sortis sur l'histoire générale des Templiers. Moi, j'ai opté pour la région. Pour la région,
d'accord.
Pourquoi ? Parce que ça m'a permis d'aller consulter les cartulaires qui sont encore présents dans les archives. Donc à partir de là, ça m'a fasciné parce que d'une région à l'autre, on retrouve à peu près le même style d'acte, comme quoi les Templiers, ils suivaient leurs règles, qu'ils soient à Jérusalem, qu'ils soient au Bastille, qu'ils soient à Monzon en Espagne, qu'ils soient à Londres, c'était pareil, c'était la même configuration, parce qu'il faut pas oublier que c'était des moines. D'un côté la Bible, mais d'un autre côté l'épée aussi, des moines militaires.
D'accord.
Voilà.
Alors, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent que très mal l'histoire des Templiers, est-ce qu'on peut raconter un petit peu comment l'histoire des Templiers a commencé ? Qui a instauré l'ordre des Templiers et où a-t-elle commencé cette histoire ?
Alors, cette histoire, elle a commencé, en fait, après la première croisade, avec 9 chevaliers, dont Hugues de Pin, qui est lui, il est l'initiateur de ce nouvel ordre. Hein. Et c'était à cette époque-là qu'ils ont proposé un nouvel ordre chrétien, monacal, mais à la fois guerrier. C'est la première fois qu'à cette époque-là, on voit des moines ou chevaliers ou moines guerriers. Voilà. Et à partir de là, parce qu'ils étaient venus pour... l'objet était de défendre les chemins, défendre les pèlerins, pendant leur cheminement vers Jérusalem. À partir de là, bon, sans m'étaler, l'ordre a grandi de façon incroyable pendant 200 ans. Pendant 200 ans, ils ont formé quand même plus de 9000 commanderies de l'Orient à l'Occident. Passant de Jérusalem, France, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Croatie, Tchécoslovaquie, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, voilà. Ils étaient partout. En fait, c'était un État dans l'État.
D'accord. Tout à fait. Voilà. Partout en Europe, en fait.
Ah, partout. 9000 commanderies, partout.
D'accord.
Puisque j'ai consulté aussi grâce à Internet, hein, parce que ce sont des livres que j'aurais jamais pu avoir, des PDF écrits par des historiens du 18-19e siècle, des cartulaires en Tchécoslovaquie, en Croatie, en Pologne. Bon, heureusement qu'ils étaient écrits en latin. Ça m'a permis, parce que le langage universel, c'est le latin. Et ça m'a permis de rencontrer certains Templiers qui venaient ou de France ou d'ailleurs. Parce que, en fait, là, ça fait 30 ans que j'écris une thèse sur les Templiers, où j'ai recensé plus de 8050 Templiers, qui va bientôt être édité en 3 volumes.
D'accord.
Et grâce à ces manuscrits, j'ai pu les relier les uns aux autres. Admettons un personnage qui pouvait s'appeler, on va dire, Jean-Luc alias. On pouvait retrouver ce personnage, admettons, au Bastille, mais là, il s'appelait Jean-Luc du Bastille. Mais c'était le même personnage. Donc c'est un travail de fond de Dominique, j'allais dire. Voilà.
D'accord. Alors, dans l'armée des Templiers, elle représentait approximativement combien d'hommes? Plusieurs centaines de milliers?
On peut pas les chiffrer.
On peut pas le chiffrer.
Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de 1118 à 1307, j'ai recensé 8050 Templiers.
D'accord.
Donc, 8050 Templiers, mais pendant les 200 ans. Ce qui fait qu'à mon avis, il y en avait d'autres.
Oui, d'accord. Oui. Parce qu'ils formaient une armée.
C'était en fait...
C'était plutôt
une communauté de religieux.
Oui, c'était une
communauté. Mais la différence avec les autres religieux, ils avaient une épée aussi. Pour mener le bon combat, comme il disait Bernard de Clairvaux. Mener le bon combat. Voilà. Mais ils étaient répartis sur 9000 commanderies. C'est-à-dire qu'en général, dans les commanderies, il y avait 3 ou 4 Templiers. Je parle de l'Occident, pas de l'Orient. De l'Occident, 3 ou 4 Templiers. Et puis le reste, c'était des affiliés, des donatis, des serfs qui travaillaient, mais rémunérés. C'était des serfs rémunérés par le Temple qui travaillaient. En fait, c'était des gens qui n'étaient pas Templiers, mais qui travaillaient pour le Temple.
D'accord. Ils sont partis en croisade à la conquête d'autres territoires, mais quand ils sont partis en croisade, ils étaient quand même nombreux, parce qu'il a fallu une armée pour combattre, pour conquérir des territoires.
Non.
De quelle manière ils conquérissaient les territoires? Quelle façon?
Déjà, ils n'ont pas été à la conquête de territoires.
Ouais.
Ils faisaient partie, donc, ils étaient là après la première croisade. Ils ont fait la croisade, mais non pas en tant que Templiers. Hein, c'est après la croisade que 9 chevaliers se sont réunis pour former un ordre. L'ordre des pauvres chevaliers du Christ, avant de devenir Templiers.
D'accord.
Pauvres chevaliers du Christ. Hein, ils ont proposé à Baudouin, qui leur a donné le roi de l'époque de Jérusalem, qui leur a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa.
D'accord. Voilà,
qui se trouvait sur l'ancien temple
de Salomon.
Mmh. Et à partir de là, donc, voilà, ils ont formé, ils ont surtout, parce qu'en fait, ils étaient pratiquement jamais en guerre. Et ils allaient soutenir certains chevaliers français lorsqu'il y avait les conquêtes par Saladin.
D'accord.
Mais d'abord, avant toute chose, ils étaient partis donc de Jérusalem, une fois qu'ils ont été, ils ont formé l'ordre, et ils ont été recrutés en Europe, en proposant donc aux chevaliers et aux seigneurs locaux leur nouvelle idée de moine, chevalier, monacal, d'accord, l'habit d'un côté. Et cette idée a plu. Elle a tellement plu que beaucoup de seigneurs ont donné des biens aux Templiers, et ils sont rentrés dans l'ordre. Voilà. Mais le but était de faire un ordre, de créer un ordre dans toute l'Europe, parce que les pèlerins qui partaient, admettons, pouvaient partir donc de Bordeaux pour aller à Jérusalem, mais ils pouvaient s'arrêter, admettons, aux Bastilles. Parce que à l'époque, les chemins, il y avait beaucoup de bandits. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient au départ? Ils étaient donc à Bordeaux, ils allaient à la commanderie de Bordeaux, c'est des exemples que je donne comme ça à la volée. Hein. Ils déposaient leur argent à la commanderie de Bordeaux, les Templiers de Bordeaux donnaient une lettre de change, et admettons quand ils s'arrêtaient au Bastille, eh bien, cette lettre de change permettait de récupérer de l'argent, grâce à cette lettre de change qu'ils avaient déposée à Bordeaux. Voilà.
D'accord.
Donc ils commençaient à tisser leur toile d'araignée. C'est le cas de le dire.
Voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont établi comme un jeu d'échecs, en fait,
un petit peu,
leur
oui.
plan,
c'est ça.
Progressivement pour se répandre et pour conquérir, je dirais, sur le plan, spirituel.
Hein, spirituel, la chrétienté.
Leur conquête, qui était plus une conquête spirituelle que guerrière, d'ailleurs.
Ben, disons qu'ils ont combattu. Ils ont combattu auprès d'autres chevaliers francs, hein, mais ça c'était sur les... En fait, il y avait deux sites de combat. Il y avait donc la terre de Jérusalem, hein, avec les fameuses 8 croisades, 7 ou 8. Il y avait aussi la Reconquista en Espagne. Et là, par contre, effectivement, ils ont combattu à un point... où que ce soit le roi d'Aragon ou le roi de Catalogne, étaient tellement satisfaits de leurs prestations qu'ils leur ont donné des châteaux. Là, c'est des châteaux. En France, ce sont des fermes, parce que les commanderies sont des fermes, où il y a effectivement quelques maisons dans les villes. Mais c'était surtout, eux, leur but, c'était d'avoir des fermes, comme le Bastille. Pourquoi ? Parce qu'on élevait des moutons pour la laine, pour les habits, pour les frères qui combattaient sur les deux fronts des Terres Saintes, puisque moi j'appelle aussi la Reconquista une Terre Sainte. Hein. Et donc ils étaient... C'est vrai que c'est dur parce que j'ai tellement... c'est dur de suivre une ligne parce que j'en ai tellement en tête. Mais disons, si je prends le cas de la Reconquista, ils avaient les rois de Dragon, leur ont donné certains biens, certains châteaux comme celui de Monzone. Et dans certains visages, ils allaient faire ce qu'on appelle la repoblación. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de dégâts qu'ils s'occupaient de repeupler les villages.
D'accord. Alors,
parmi les gens qui repeuplaient, il y avait des Juifs, il y avait des Arabes, il y avait des gens du coin. Parce que la Reconquista, c'était l'affrontement de plusieurs populations. Hein. Donc là, ils ne faisaient pas de... pour ça, les Templiers ne faisaient pas de ségrégation. Quand il y avait une repopulation, eh ben, moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu dans les cartulaires. Ce n'est pas des trucs que j'invente, c'est dans les cartulaires, tout écrit en catalan. Et on voyait les noms de certains Juifs qui étaient en cohabitation avec certains Arabes et certains Français pour repeupler un village. Ce qu'on appelle la repoblation.
D'accord.
Et ce qui est magnifique, c'est que tout le monde s'entendait et qu'il y avait une fraternité incroyable. Et ça, c'est à souligner.
Tout à fait.
Alors, Jean-Luc, ouais. Wilfried et Evelyne, on va faire une pause musicale. On va justement faire honneur aux Templiers et à la commanderie de Giraud de Causse en passant des musiques templières qui ont été choisies justement par Wilfried et par Jean-Luc. Vous allez écouter, vous allez voir, c'est très profond, c'est très très beau. Et on se retrouve tout de suite après. Et après, je laisserai la parole à Evelyne. Je pense qu'elle a beaucoup de questions à leur poser. Allez,
absolument.
Thank you. harbor in the storm.
Blessed are you among women, and blessed is the fire within your heart. In you, the stillness of heaven and the flame of sacrifice. You are the bell of prayer in the desert night.
When darkness covers the earth, you stand like the dawn upon the hill. Your name is a sword that cleaves the night. Your eyes, the stars that guard the pure in heart.
Ave Maria, Lumen Aeternum, Protectrix Animarum, in tenebris low.
Oui, bienvenue sur les ondes de radio pour ceux qui nous rejoignent dans le cours de l'émission. Et oui, aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent, on accueille l'association de la commanderie templière de Géraud de Causse qui est parmi nous, avec Jean-Luc alias, Wilfried Joule, Dominique Ray et Karine Javed, voilà. Et on est en direct sur les ondes d'eau de radio, bien entendu. Alors, j'aurais pas de questions à poser. Je vais laisser la parole à Evelyne. Je reviendrai après pour poser mes questions. Je vais laisser la parole à Evelyne. Je suis sûr, certain, qu'elle a plein de choses à leur demander. N'est-ce pas, Evelyne?
Oui, tout à fait. Eh bien, déjà, je vais m'adresser donc à Wilfried Joulet pour qu'il nous parle davantage de leur événement exceptionnel qui va se produire au mois de juin, du 27 au 30, c'est cela ?
28.
28, voilà. Du 27 au 28 juin. Eh bien, Wilfried, parle-nous-en davantage, explique-nous tout cela. Allez, on
Merci,
est
Evelyne.
Impatients.
Merci, Evelyne. Oui, donc, c'est notre premier chapitre qui est intitulé « Consécration ». Puisque 2026 est une année de consécration pour la commanderie Géraud de Cosse sur ce socle de notoriété et de résurgence. Et donc, ça se déroule au château de Pagax, dans l'Aveyron, c'est dans le petit village de Flagnac, qui est limitrophe avec le Lot. Et donc, sur ces deux jours où seront rassemblés avec l'amabilité, l'invitation et tout ce qui va avec de M. Christian de Sales, le propriétaire du château de Pagax, qui a créé sa propre association, les Amis du château de Pagax, qui a toutes ses structures au niveau de grands événements, puisque le château de Pagax a été classé monument historique et sauvegarde du patrimoine, et donc et qui a aussi été financé par Stéphane Bern. Comment ça s'appelle
Oui. Effectivement, oui. L'animateur télé.
Oui.
Très bien.
Par le patrimoine, le loto du patrimoine, si je ne me trompe pas.
Très bien, effectivement.
Voilà, et donc sur ces deux jours, le samedi, les cérémonies officielles démarrent à 16h. Le samedi 27 juin 2026, ça démarre à 16h, donc avec une conférence très appuyée sur Géraud de Cosse, le dernier commandeur du Bastille. Ensuite, en parallèle, le propriétaire du château donc, va mettre en place un marché gourmand pour que les personnes puissent se restaurer, profiter des produits du terroir, de l'Aveyron et du Lot. Et donc à 19h, il y aura la première cérémonie des adoubements dans les écuries et la chapelle, du moins ce qu'il en reste de la chapelle du château de Pagax, puisque les écuries, c'est un petit peu le château de Pagax avec les écuries, la petite chapelle, me font rappeler un petit peu le Bastille. Voilà,
d'accord.
Hormis le contexte Parfait. Château, mais après les écuries, ce sont des loges très très grandes, où on peut y rentrer à 400, 500, 600 personnes, c'est très très grand, donc c'est là où se dérouleront les cérémonies d'adoubement, à proximité de la chapelle. Et donc ensuite, à 21h, 21h30, suivant la clarté, dès que le jour tombe, il y aura une procession au flambeau. Et après, ensuite, il y aura vraiment l'élément clé, l'élément phare de ce samedi, c'est la procession à Marie, où là, tous les chevaliers et chevaleresses de la commanderie défileront en portant la Vierge Marie, qui est la mère des Templiers. Et le public pourra suivre la procession, puisque ça partirait, on est en train de définir le trajet sur 2 ou 3 kilomètres à peu près du petit hameau, du petit village de Flagnac, donc jusqu'au château de Flagnac. Et là, le propriétaire du château, M. Christian de Sales, en ayant, sa propre association, ses propres équipes, son propre matériel, permettra un bon déroulement de cette journée. Et ensuite, donc, je vais passer au dimanche matin. Au dimanche matin, il y aura donc une messe à partir de 9h, à proximité de la petite chapelle, donc dans les écuries. Ensuite, il y aura à confirmer un récital par la cantatrice Marie de Perthes, et alors je dis bien à confirmer parce que ce n'est pas encore définitif. Ensuite, il y aura la deuxième cérémonie d'adoubement. Et pour clôturer le chapitre, donc, il y aura une parade des chevaliers et chevaleresses de la commanderie Géraud de Cosse. Et beaucoup m'ont sollicité pour qu'ensuite, le dimanche après-midi, on puisse se retrouver tous ensemble sur le chemin du retour pour visiter et ressentir un petit peu à travers l'âme des Templiers de s'arrêter au Bastille, donc la dernière commanderie de notre ancien commandeur Géraud de Cosse.
Voilà. Magnifique programme en tout cas, ça donne vraiment envie de vous suivre et nous y serons. Je pense que moi en tout cas j'y serai et avec grand plaisir. Par contre, combien de Templiers adoubés vous allez avoir cette année ?
Alors, cette année
de
déjà...
De nouveaux Templiers.
Oui, de nouveaux Templiers. Alors, pour le 27-28 juin, il y aura 17 nouveaux Templiers. Et à noter que sur les 17, il y a 12 femmes.
C'est magnifique.
Voilà.
Et sans compter que vous avez vraiment du succès, que vous ne cessez d'avoir des adoubements tous les ans.
Tous les ans.
C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Oui, mais c'est-à-dire que je travaille déjà sur 2026 et 2027. Plutôt 2027, voire 2028, puisque 2027, il y a un gros chapitre qui se tiendra au château de Puymartin, dans la Dordogne. Là, avec mon lieutenant Dominique Rey, on a pris audience auprès de l'évêque de Dordogne pour un éventuel chapitre à l'abbatiale de Cadouin, qui est très très sacré, puisque c'est une ancienne commanderie. Et ensuite, donc, on planche aussi sur la création, là, avec Jean-Luc Alias, l'historien, la création de baillis, d'annexes de la commanderie Géraud de Corse, qui seront ciblés à travers le territoire national pour pouvoir répondre surtout, parce qu'il y a une telle demande de frères et sœurs, de personnes qui veulent rentrer au sein de la commanderie, logistiquement, sur le secteur de Gourdon, bon, on a les mêmes pour, il n'y a pas de souci, mais ça fait des trajets, ça fait des frais. Et donc, j'ai énormément de demandes là-dessus en me disant, oui, mais Wilfried, ce serait bien d'essayer de créer des baillis dans d'autres départements, regrouper des départements avec un axe central sur un rayon à peu près de 80 km. Et ça permettrait, avec Jean-Luc Alias, qui a écrit le corpus, qui est très élaboré, très ficelé, et je l'en remercie aujourd'hui, pour pouvoir créer donc ces baillis et donner une place beaucoup plus importante à ces gens qui s'investissent à travers un poste de référent, de frère sergent, sans que pour autant ils soient adoubés. Je préconise quand même que la nécessité, c'est quand même d'être adoubé. C'est pas un titre honorifique, mais c'est une façon de pouvoir s'exprimer noblement et reconnu. Voilà.
Et s'investir aussi, porter ses valeurs et rentrer vraiment dans ce que vous proposez, dans cet ordre magique et extraordinaire qui renaît de ses cendres grâce à vous. Parce que c'est quand même une commanderie particulière qui est axée sur les valeurs des Templiers, mais aussi sur l'humain.
Tout à fait.
Et pas que la religion non plus. Il y a tout ça derrière.
Non, la religion, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Parce que ce que j'explique à toutes ces personnes qui rentrent au sein de la commanderie, c'est que c'est leur propre chemin, c'est leur propre foi spirituelle, c'est leur propre âme templière. Ça, c'est très important parce que les gens se sentent en totale liberté. Il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de règles bien définies au sein de la commanderie. Chacun est libre, en respectant bien évidemment le code d'honneur, la loyauté, la fidélité, le respect. Mais ceci dit, les gens sont à leur place. Ils arrivent à trouver leur place. Et ça, c'est très important. Voilà. Que ce soit au Conseil des Sages ou les réunions mensuelles qu'on va établir à partir du mois de mars. Alors, le mois de mars, ça va être compliqué avec les élections, donc je pense qu'on va le décaler au mois d'avril. Et le fait d'impliquer tous ces gens-là, alors qu'ils sont... On a des chevaliers, de chevaleresses de Belgique, Philippe et Sylvie McKinnon, qui ont été adoubés au Cordelier le 23 novembre. On a des donateurs de Suisse. On a énormément de donateurs de Suisse. Voilà, parce que la Suisse aussi avait, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de commanderies qui sont tombées à l'abandon, qui ne sont plus du tout suivies. Et donc ces gens-là, je pense à M. Steve Le Gall, qui est un très très bon donateur, et tous les mois, ces gens-là font don de deniers pour la commanderie, pour nous aider à avancer, à progresser, à matérialiser.
C'est très beau.
Oui, tout à fait.
En effet.
Tout à fait. Et donc, ce que j'essaye de mettre à l'honneur, c'est ce côté résurgence, ce côté féminin. Ça, je suis en train de me rendre compte que c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser énormément, énormément de demandes de femmes qui veulent rentrer au sein de l'ordre. Mais à quelque part, je suis très, très satisfait parce que ça va un petit peu booster ce côté égo de certains chevaliers qui reposent sur leur laurier et qui se disent que tout est acquis. Non, il n'y a rien qui est acquis parce que dans un ordre templier, l'esprit templier, jamais rien n'est acquis.
Non, tout à fait. Et on a tous à s'apporter, on est tous complémentaires. On a tous étudié l'histoire ou des personnages particuliers sur d'autres chemins. Et en se concertant, on arrive à améliorer encore, affiner et à pouvoir encore mieux comprendre tout cela. Et c'est encore plus beau de pouvoir justement tous participer à cette cause.
Tout à fait, tout à fait. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à travers toutes ces allocutions que j'ai tous les jours au quotidien, donc avec ces personnes qui me sollicitent, c'est que à quelque part, dans mon titre hiérarchique, on va dire, de commandeur, puisqu'il n'y a aucune légitimité sur ça, je tiens à le préciser aussi, c'est plus dans l'authenticité, puisque l'ordre n'a jamais été rétabli, on est bien d'accord, par l'Église. Donc, l'association Géraud de Causse, comme je vous expliquais tout à l'heure, a été classée sauvegarde du patrimoine, mais pour faire renaître des cendres, ce qui se passait à 1300, mais modernisé à 2025 et 2026. Voilà.
Tout à fait.
Et il faut dire les choses avec le contexte actuel que l'on vit. Les gens, ce que je vous expliquais, ont besoin de cette fraternité, ont besoin de ce lien familial, d'être écoutés.
Ouais,
voilà, d'être écoutés. Ça, c'est très important, d'être écouté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes perdues. Je le côtoie au quotidien. Et là où je voulais en venir, c'est que cette manne, à quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, c'est une richesse humaine, Veline. C'est vraiment une richesse humaine. Et ça permet la résilience, ça permet la résurgence, mais c'est surtout, ça permet l'humilité.
Et puis de retrouver ces rassemblements humains qui existaient, où autrefois, ne serait-ce que dans les petits villages, il y avait toujours des moments où les gens se retrouvaient sous les plus beaux arbres et on y posait les tables et les nappes et chacun partageait et participait et rigolait. Et tout cela, on l'a perdu quelque part, tout ça.
Tout se perd.
Aujourd'hui, on est dans nos appartements cloisonnés, on ne connaît même pas qui est le voisin d'à côté ou la voisine. Et tout ça, c'est tellement dommage. On attend, ça portait tous. Donc ça, bien, bravo, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour l'humain. La communication, le rassemblement et la solidarité, aujourd'hui, on doit s'accrocher à ces valeurs, plus que jamais.
Oui, tout à fait.
Ça,
tout à fait. Puis il y a les valeurs, il faut dire telles qu'elles sont, les valeurs de patriotisme. Hein. Il ne faut
bien
pas
sûr
avoir peur d'employer ce mot. Moi, j'y tiens fortement. Ça peut déplaire à certains, soit. Mais les Templiers, c'était des patriotes. Ils défendaient leur terre, ils défendaient leur religion,
leur
ils défendaient leur justice, etc. Donc, tout est lié. Tout est lié. Puis je vois beaucoup de personnes me sollicitent. Ce sont des appels d'âme.
Oui, tout à fait.
Voilà. Les gens se reconnaissent à travers ces appels d'âme templières. Et chacun l'interprète à sa façon, on est bien d'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Templier ne sera jamais dans le jugement. Le jugement, il est banni dans un ordre Templier, dans la commanderie Géraud de Causse. Ça, je m'y emploie. Toutes ces personnes, je peux appeler ça comme ça, comme dirait Jean-Luc, des satellites qui tournent tout autour pour essayer de nous empêcher de progresser, ils n'ont pas du tout une âme templière. Et malheureusement, ils se revendiquent templiers, mais ça va à l'encontre de l'éthique. Et ça, à travers ce qu'on a vécu avec Dominique, mon lieutenant, on est tombé à travers, à quelques travers de traîtrise le 23 novembre, malheureusement. Mais c'est très bien parce que ça a permis à tout le monde de pouvoir se recentrer, de pouvoir se refocaliser sur l'essentiel d'un ordre templier. Parce que ce n'est pas facile, il ne faut pas croire, Evelyne. En un an, puisque la commanderie, en tant qu'association, elle a fait un an le 28 janvier, si je ne me trompe pas. Ouais, un an d'association. Et donc, arriver à gérer toutes ces âmes, toutes ces personnes humaines, parce que ça part de toute classe sociale. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est un Lions Club ou quoi que ce soit. Parce que, non, mais voilà, que ce soit bien clair. On accepte toutes les classes sociales. Voilà. Et de plus en plus de femmes rentrent au sein de l'ordre. Mais voilà, sur ce côté central, je dirais, d'un ordre des Templiers, c'est à la fois... Karim a écrit un texte qui était très bien, cette phrase magnifique, c'est un pont entre le passé et le présent. Voilà.
Oui, tout à fait. c'est certain. Puis en même temps, ça vous enseigne, ça vous permet de grandir à travers toutes ces personnes et puis quelquefois quelques traîtrises que l'on vit tous plus ou moins dans les associations. Mais quelque part, on se dit rien n'est là pour rien puisque nous apprenons et que la prochaine fois, on saura maîtriser ce problème-là. Donc c'est quand même important aussi, il n'y a pas que du rose dans la vie. Non. Et il faut savoir affronter nos épreuves et en ressortir grandi. Et ça, c'est extrêmement important.
Tout à fait, tout à fait. Puis il faut savoir que de nos jours, être à l'écoute, quand je dis bien être à l'écoute, ça aide énormément à ces personnes-là à se recentrer et surtout à retrouver une identité. Pas une identité nationale, comment dirais-je, c'est pas une identité nationale, c'est une identité personnelle. Et le fait de se référer à une entité comme la commanderie Géraud de Cosse, parce qu'on est, je crois, une ou deux, Jean-Luc, si je ne me trompe pas, commanderie en France, à avoir une entité d'un ancien commandeur.
Hein, c'est deux.
Deux, voilà. Donc
parce que
deux.
J'étais parrain de l'autre, celle d'accord. que j'ai dite là, à Montluçon. Je ne sais pas si elle existe toujours, puisque le commandeur de l'époque, ben, il est parti rejoindre le Christ.
D'accord.
Voilà, donc j'ai plus de nouvelles. Et puis, il y a celle-ci de Géraud de Cosse.
Voilà.
Voilà.
Donc, sur le plan national, on est la seule commanderie à avoir une entité authentique, historique,
templière. Un personnage templier réel.
Ouais. Et beaucoup de personnes souhaitent faire donc, ce chemin de pèlerinage, je peux l'appeler comme ça.
Oui, tout à fait.
Puisque le chemin de pèlerinage des templières au Camadour passe par le Bastille, il ne faut pas oublier. Pardon. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent s'ils peuvent accéder au lieu de la commanderie, cette ferme, comme disait Jean-Luc.
Une grosse ferme. Ouais.
C'est une grosse ferme avec des grosses dépendances, des grandes longères. Moi, j'ai pu y accéder deux fois d'affilée l'année dernière où j'ai rencontré les propriétaires. C'est très, très chargé. C'est très, très chargé en âme. Oui. Vous mettez la main sur une pierre...
Elle parle.
Bien sûr. Voilà. Souvent, j'amène des personnes qui sont sur leur chemin, leur cheminement personnel pour être adoubées. Je me permets de les amener et qu'ils puissent se rendre compte si vraiment ils ont cette âme templière. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que... Mais, les pierres parlent, le glaive y parle, et on est vraiment dans le vrai. Voilà.
Oui, tout à fait. On le ressent. Puis tout en plus, par rapport à votre passion et comment vous nous l'exprimez, on est vraiment dedans. Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, amis auditeurs, mais moi, je suis vraiment dedans. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Luc Alias qui va nous parler de qui était vraiment Géraud de Cosse.
Alors, Jean-Luc, il nous reste 5 minutes d'émission.
Oh, déjà.
Et oui, on arrive à la fin.
Passe vite,
ça donc passe ça passe vite. Très vite. On aurait, je pense, 2, 3, 4 heures de discussion sans problème.
Oh, largement. Et encore peut-être
davantage.
Il faudra renouveler l'expérience.
Oui, avec
tout
plaisir.
À fait. Tout à fait.
Alors, Jean-Luc, un petit résumé.
Qui était Géraud de Cosse? Bon, il faut savoir qu'il est né en 1263. Qu'il a été initié en 1298, donc à l'âge de 35 ans, à Cahors. Et peu de temps après, il est devenu effectivement précepteur de... Moi, je dis, excusez-moi, je
c'est
dis précepteur.
Précepteur.
Bon, tout le monde, c'est commandeur. Bon, moi, je le traduis en latin, préceptor.
Oui, ça précepteur. Se dit également.
Voilà. Donc, du Bastille. Et alors, chose curieuse, qui rejoint... La fameuse, le 26 et 27 juin.
27-28.
27-28 en plus.
Oui.
27-28.
Oui, 27-28, oui.
Sache que Géraud de Cosse a été initié le 28 juin.
Il n'y a pas de hasard, une fois de plus, c'est merveilleux.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse.
La
exactement, moi ce que j'ai apprécié beaucoup en Géraud de Cosse, il y a une petite anecdote que j'ai trouvée dans les archives, c'est qu'en fait, il était une très belle personne, cultivée et réfléchie. Et en fait, il se présente comme quelqu'un qui a une formation juridique. On le voit dans les cartulaires, injuré peritus. C'est-à-dire qu'il était très très bon au niveau juridique. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite anecdote en 1304, c'est que Il y a une fameuse dame qui s'appelait Guillerma, qui avait 3 enfants et un mari, et qui a été elle a été jugée par les assises de Cras. Cras, c'est un petit village à côté de Bastille, et elle a été jugée en tant que sorcière, donc bannie du territoire avec ses 3 enfants. Mais lui, il a eu cette espèce de compassion, parce que il faut savoir que les Templiers avaient été seigneurs. Dans certains endroits, ils étaient seigneurs de là où ils avaient leur commanderie. Et lui, il a une certaine compassion pour cette dame. Et en fait, il l'a fait revenir. Il a cassé le jugement, il l'a fait revenir. Et il lui a restitué tous ses biens. Et les 3 enfants ont pu donc être présents, bien entendu. Donc moi, c'est ce côté qui m'a... Parce que j'avais des archives jusqu'en 1311, et cette petite anecdote m'a fait que j'ai écrit un roman historique après 1311. Voilà. J'ai eu une petite approche de ce Géraud de Causse. Il était prudent et réfléchi. Il était loyal, mais peut-être un peu désillusionné. Parce qu'il se pratiquait des règles dans l'ordre, d'après sa confession lors de son jugement, auprès de la commission pontificale, où il y avait effectivement des choses qui n'allaient pas dans l'ordre. Voilà.
Et pas dans son sens, a priori.
Ah oui, des choses qui étaient un petit peu... c'était assez forfaitaire, mais bon. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est le jugement. Quand vous avez quelqu'un qui veut vous faire dire vous êtes en plein jugement, et avec les méthodes un peu cruelles qu'ils avaient à l'époque, quand vous avez entendre de quelqu'un ce que vous avez envie qu'il entende, d'entendre, ben vous le faites, vous le mettez au fer. Et là, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Donc voilà, en plus, c'était un homme de principe et de justice. Voilà. Ça, il faut qu'il le retienne, mon ami Wilfried.
Et je crois qu'il incarne très bien.
Complètement. Et la preuve est qu'il incarne bien. Et puis, je vais rajouter qu'il était bienveillant et compatissant.
Ça, je confirme.
Voilà. Oui. Donc, c'est un personnage très cultivé. Et je pense que, comme j'ai dit, qu'en résumé, Géraud de Causse apparaît comme un homme fidèle à ses croyances et principes, mais aussi extrêmement conscient des failles et des dérives de l'ordre. Je suis bien à la fin de l'ordre.
Tout à fait.
À la fin de l'ordre.
Très certain.
Son caractère combine une profonde spiritualité, un sens de la justice. C'est pour ça que tu aurais dû te présenter maire. Une prudence marquée et une capacité à faire preuve de bienveillance, même dans des circonstances difficiles. Ces traits font de lui un personnage à la fois complexe et humaniste, pris dans les tensions entre idéal, spiritualité et réalité humaine. Voilà ce que j'avais à dire, puisqu'il ne reste pas longtemps, concernant Géraud de Causse.
Très bien.
Merci Jean-Luc, merci.
On a vraiment un personnage qui est vraiment, vraiment empreint par cet ordre, et puis qui le porte vraiment bien. J'aurais aimé, s'il y a quelques petites secondes, rebondir
sur ce que... Oui, on a une minute.
Alors, une minute, pas plus. Donc voilà, je voulais rebondir sur le fait que cette femme a été traitée de sorcière et exclue du village, etc. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup d'amalgames sur ce qui était sorcellerie. Il y avait aussi des dames qu'on consultait pour être des guérisseuses qui dérangeaient quelquefois et qui faisaient des potions, qui faisaient des élixirs thérapeutiques et qui auraient pu très bien passer pour hérétiques et sorcières, et que c'est peut-être aussi le cas de cette petite dame qui finalement a suscité l'envie de Géraud de Causse de la restituer, parce que finalement elle rendait beaucoup de services et qu'elle n'était pas du tout dans quelque chose d'horrible, quoi. Et absolument importante pour eux aussi, peut-être bien.
Et encore, voilà. Encore juste 3 mots.
Oui, alors 3 mots.
Concernant justement les femmes dans le temple, j'ai découvert encore dernièrement qu'à Gourdon, il y avait une maison du temple qui n'est pas dans mon livre, dans les archives. Et qui était dans cette maison? Une femme.
Et voilà.
Qui s'appelait Esselina.
Esselina,
oh,
oui.
C'est
oui.
Joli. Quel Esselina. Beau prénom.
Oui, et notamment là-dessus, j'ai sollicité la maison du Sénéchal, la maison des archives de Gourdon. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour accéder aux archives.
Folio 111.
Oui, Folio 111, ouais, j'ai tout marqué, j'ai lu.
Bon, voilà.
Merci,
bon, merci.
Ils font l'objet d'une nouvelle émission quelques temps.
Et ah, avec grand plaisir. Ceci dit, Patrice, si vous me permettez de vous remercier gracieusement et surtout avec toute notre gratitude et nos respects fraternels de votre invitation, de votre bienveillance. Et toute la commanderie s'associe à mes côtés pour vous dire merci, parce que ça va permettre, à travers cette émission, à travers la radio des Hauts-de-Garonne, mais de consolider et surtout de continuer à porter cet élan de notoriété, de résurgence pour la commanderie. Merci beaucoup.
Mais merci à vous surtout, c'était un grand honneur. Et continuez à porter l'étendard et le flambeau pour que nous puissions rêver et partager avec vous de si beaux moments. En tout cas, merci à tous nos auditeurs.
Merci
à vous. Merci, à Patrice aussi.
Merci à vous quatre. Merci à Evelyne. Merci.
À très bientôt.
On va rendre l'antenne. Voilà, la prochaine émission, surveillez bien sur les portes de la connaissance d'Eau de Radio pour la prochaine émission, comme d'habitude. Vous aurez l'intitulé de l'émission la prochaine fois, quelques jours avant, comme d'habitude. Voilà, merci à tous.
En espérant que ça vous a plu et que vous allez chercher sur Internet et sur Facebook un peu plus d'informations sur leur commanderie. Et puis aussi sur les livres de Jean-Luc Alias. Si on a 2 secondes, comment on peut se les procurer ?
Il y a chez moi, ou à Amazon, ou à la FNAC. Ou voilà.
Voilà, vous notez Jean-Luc Alias, livre, et
tout
là,
sort.
Vous aurez tout. Voilà, à
merci
très bientôt.
À tous, merci à au tous, revoir,
merci.
Au revoir, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
May it be when darkness falls.
Culture et patrimoine. Une émission présentée par Evelyne Padrino. Faites un voyage dans le temps. Au cœur des anciennes civilisations.